Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec le chiffre du jour, 1 158 € mensuels. C'est ce que réclame Manon Aubry, la tête de liste LFI aux européennes, pour tous les étudiants de France. L'idée est de faire en sorte qu'ils puissent vivre sans avoir de petits boulots à côté. Mais Paul, concrètement, ça va se passer comment et surtout pourquoi 1 158 €? C'est très précis.
Eh bien, tout simplement parce que c'est aujourd'hui le seuil de pauvreté en France. Et il faut savoir que 1 400 000 jeunes vivent en dessous de ce seuil aujourd'hui. Alors, ce que demande Manon Aubry, c'est que tous les jeunes de moins de 25 ans qui ne travaillent pas touchent cette allocation, une mesure qui est quand même dirigée principalement pour et vers les étudiants. Car aujourd'hui, 4 étudiants sur 10 travaillent en plus de leurs études. Et pour la tête de liste des Insoumis aux européennes, cette situation met en difficulté les étudiants. Un risque déjà pour la réussite scolaire. Forcément, un étudiant qui consacre son temps libre à une activité professionnelle aura plus de difficultés à mener à bien son cursus. Autre risque évoqué par Manon Aubry, la santé. 9% de la population étudiante a par exemple eu recours à l'aide alimentaire depuis la rentrée universitaire. Et cette mesure que veulent instaurer les Insoumis, elle permettrait aussi de s'accorder avec d'autres pays de l'Union européenne. Oui, aujourd'hui, il y en a 23 qui accordent un minimum social aux jeunes dès leur majorité. Un minimum social qui existe aussi en France, c'est le RSA, mais qui n'est accessible qu'à partir de 25 ans.
Alors, octroyer un revenu de 1 158 € mensuels aux étudiants de moins de 25 ans, bonne ou mauvaise idée, Thierry Moreau?
Je trouve que c'est pas un bon signal qui est envoyé. D'abord parce que, alors, évidemment qu'il y a un problème de précarité de beaucoup d'étudiants en ce moment en France, ça c'est évident. C'est vrai aussi qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté aujourd'hui parce que ne serait-ce que parce que leurs parents, touchés par la crise, touchés par l'inflation, ne peuvent pas les aider comme ils pourraient quand ils n'ont pas de travail. Donc j'ai pas de souci sur le fait qu'il y ait une problématique de précarisation d'une partie de la jeunesse en France. Le seul problème, c'est qu'on apporte une mauvaise réponse à une bonne question. D'abord, où est-ce qu'on sort l'argent? On est quand même très, très endetté. C'est une mesure qui va coûter 20 milliards d'euros.
C'est ça.
20 milliards d'euros, on les a pas, On est en train de les chercher pour finir le budget. Donc ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, que je trouve que c'est une mesure totalement indiscriminée et non différenciée. Donc, on va balancer de l'argent dans la nature. Et donc, il y a des gens qui vont en bénéficier, qui ne devraient pas en bénéficier.
Il existe des bourses, déjà.
Et alors, c'est pour ça, je suis pas rentré dans le dispositif pour pas être trop long, mais effectivement, on peut avoir des ciblages d'aide pour les précaires, les augmenter, les travailler, j'ai pas de souci. Mais avoir une aide indifférenciée comme ça, qu'on balance dans la nature à tous les jeunes, je trouve ça incroyable.
Et puis, je rappelle. 11 milliards et pas 20, le coût social.
J'avais vu 20 milliards dans l'article du Figaro ce matin. Ok, d'accord. Donc, c'est 11 milliards, pas de souci. Je rappellerai quand même que Manon Aubry, c'est celle qui, en 2020, avait publié une petite annonce sur ses réseaux sociaux pour proposer un stage où elle donnait royalement 1 200 € bruts pour 42 heures de travail, alors qu'un stagiaire ne peut pas faire plus de 35 heures. Donc, elle est en train de donner cette promesse électorale-là à 2 jours du scrutin. Comme par hasard, c'est dans leur programme depuis très longtemps, je ne conteste pas. Mais comme par hasard, ça ressort 2 jours pour...
Ils ne pouvaient pas le faire avant, ils étaient occupés dans les manifs.
Voilà, pour s'amener le vote des jeunes à 2 jours du scrutin.
Mesure,
tout ça est d'une hypocrisie et d'un électoralisme absolu. Donc, évidemment, c'est ridicule et ça ne devrait... Enfin, voilà.
Alors, en tout cas, si vous êtes étudiant, si vous galérez, si vous avez un petit boulot à côté de vos études et que vous ne vous en sortez pas, ben appelez-nous. On vous attend bien sûr au 3216. C'est de l'assistanat pour vous, Daniel Riolo, ou c'est une bonne mesure?
Je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre. Tout ce que je sais, c'est que c'est complètement absurde.
Oui, bah donc c'est
comme à peu près tout ce que propose LFI. Donc, ils nous sortent ça à 3 jours de l'élection européenne. Donc, bon, évidemment, on se dit, tiens, si on pouvait ramasser des jeunes au dernier moment qui vont venir voter. Comme on a occupé les universités, on était occupé à des combats politiques internationaux plutôt que de se soucier des élections européennes. On va essayer de voir un truc. Mais bon, là, de la même façon, on se demande, mais attends, c'est une mesure pour la France. Tu veux imposer ça au niveau européen parce que... on comprend pas tellement la.
Sachant que la vie n'est pas la même dans tous les pays. C'est-à-dire qu'en Espagne, je veux dire qu'avec 1 158 €, tu vis très très bien.
Et puis, on n'a pas le même nombre d'étudiants, parce qu'évidemment, certains se sont engouffrés dans la brèche danoise en disant ah, les Danois le font. Ah, bah oui, les Danois, ils ont 300 000 étudiants, on en a 3 millions. Ah, et donc, la bonne affaire. Mais bon, il y a toujours, je sais pas, des comparaisons complètement stupides qui sont faites. Le problème de précarité des étudiants dont on parle, en fait, le vrai problème en France, c'est qu'il y a beaucoup trop d'étudiants.
Bah oui.
Comme on a gommé toute sélection et qu'on emmène 90% d'une classe d'âge au bac, tout le monde peut être étudiant. Donc en fait, après si jamais on prend une mesure de ce genre,
c'est tous les jeunes.
Derrière, on créera un business du fait d'être étudiant. C'est-à-dire qu'on poussera pour être étudiant, on s'inscrira en fac, sera étudiant, on prendra les 1000 balles et puis on ira faire autre chose à côté. Parce qu'on suivra pas les cours à la fac et tout ça. Mais je sais pas si on se rend compte, mais de l'absurdité de ces gens-là et des mesures qu'ils peuvent proposer.
Alors, je sais pas si t'as entendu parler de Parcoursup, mais c'est pas si simple, hein, quand même, d'accéder à des études.
Non, mais tu sais, moi, comme j'ai pas d'enfants et puis comme, en fait,
bah,
je vis sur Mars,
on va pas.
Parcoursup, je suis pas au courant, mais tu vas m'expliquer dans un instant ce que c'est. Mais, oui, tout ce que je sais, c'est qu'on emmène une classe d'âge beaucoup trop importante, au bac, plutôt que de développer d'autres secteurs d'activité qui sont en souffrance dans notre pays, plutôt que de penser à développer l'artisanat et tout un plein d'autres métiers qui ne sont pas pourvus dans notre pays. Mais comme on a décidé qu'on n'aurait que des étudiants, eh ben alors, voilà, n'importe qui va à la fac, n'importe qui pourrait prendre ce salaire, ça lui ferait une sorte de mini-SMIC, et puis tout le monde serait content, voilà, puis on vivrait avec ça, à limite. Et puis on va créer une société et de précaires et d'assistés. C'est magnifique, c'est LFI.
Est-ce que vous êtes pour cette mesure, Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que ça permettrait, selon vous, de lutter contre la précarité étudiante?
Moi, je trouve que c'est une mesure intéressante parce qu'aujourd'hui, il y a un vide pour les jeunes. Donc, j'aimerais bien sortir un peu du LFI bashing et du contexte électoral bashing parce que c'est une mesure qui existe depuis longtemps, qui est dans l'air depuis longtemps. C'est-à-dire qu'après-guerre, c'était largement défendu, y compris par des étudiants gaullistes.
C'était moins nombreux.
Oui,
il y avait moins d'étudiants.
Oui, mais enfin, il y avait aussi moins de riches en France. Enfin, on était dans l'après-guerre. Voilà. Il y a même eu d'ailleurs une proposition de loi qui a failli être adoptée en 1951, puis ils ont laissé tomber. C'est quelque chose qui existe dans de très nombreux pays. Et par ailleurs, d'ailleurs, en septembre 2023, il y a 14 présidents d'universités qui ont lancé un appel pour une allocation étudiante.
1000 euros. C'était 1000 euros.
Oui, alors après, moi, sur le détail du montant, j'ai pas fait l'étude économique. Mais, clairement, les études montrent que la précarité, c'est le premier facteur d'échec académique aujourd'hui. Moi, je pense que c'est important de faire des études. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, on va pas faire d'autres métiers. Mais en fait, les études, c'est pas forcément, pour former que des travailleurs. On forme aussi des citoyens. C'est bien d'avoir une certaine culture générale. Donc, pour moi, c'est intéressant de faire des études. C'est d'ailleurs quelque chose qui est de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, avec Parcoursup, les filières sont resserrées.
Mais ça, je suis d'accord, mais à la fac, par exemple, enfin, pardon, moi, j'ai eu un boulot étudiant. Je pense qu'ici, autour de la table, on a tous eu un boulot étudiant, on n'en est pas mort. Je veux dire, et voilà, et on mangeait des bolinos. Enfin, moi, j'ai mangé des bolinos pendant mes années d'études.
C'est de ne pas travailler.
Et je faisais des petits boulots pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est arrivé à tout le monde. Encore une fois, aujourd'hui, t'es à la fac, il y a quand même des cursus à la fac où tu vas pas beaucoup en cours. Donc, je veux dire, tu peux utiliser ton temps libre aussi pour travailler. Alors, je te parle pas des grandes écoles, je te parle pas des filières ultra sélectives comme médecine, par exemple, où effectivement, tu peux pas avoir un petit boulot à côté, c'est impossible. Mais on est d'accord qu'il y a quand même des filières à la fac où t'as un peu de temps libre et où si tu bosses chez Ikea ou chez le fromager du coin de la rue, ça va pas te tuer, quoi.
Et puis, l'étudiant riche ou l'étudiant pauvre, il touche ses 1158 euros.
Les jeunes, parce que c'est pas que les étudiants, c'est les jeunes de moins de 25 ans.
La condition, c'est de ne pas vivre chez ses parents. Ensuite, je vais vous étonner, mais en fait, si même si les parents sont un certain capital, mais tant qu'ils contribuent par l'impôt à ce système qui bénéficie à tous, moi, ça me choque pas que ce soit sans condition, parce qu'en fait, les parents payent plus d'impôts, et donc, de fait, leur enfant va aussi bénéficier de ce système-là. Mais vraiment, c'est un choix politique. La politique, comme dit l'abbé Pierre, c'est où on prend l'argent et où on le met. Aujourd'hui, on est quand même une grande puissance en termes de PIB. Il y a plein d'autres pays européens qui arrivent à faire ça. Pourquoi la France n'y arriverait pas? Et effectivement, moi aussi, j'ai travaillé pendant mes études, mais c'est
On enlève les bourses, on est d'accord.
Oui, bien sûr.
Donc, on enlève les bourses.
Ça sert à rien.
On enlève un truc sous critères, sur critères de ressources.
Et on met un truc pour tout le monde.
Enlever les critères. Alors, en fait, je comprends pas bien les LFI là-dessus, hein. C'est-à-dire que, en fait, t'as un
truc. Pourquoi ne pas augmenter les critères de bourse?
C'était exactement la même proposition qu'après.
Pourquoi ne pas lutter contre la précarité en augmentant les critères de bourse plutôt que de donner un truc qui va être balancé dans la nature de façon à différencier?
Oui, et les bourses peut-être aussi en mettant des critères de réussite. Parce que quand t'as le droit de redoubler 3 fois en 5 ans, je suis désolée, mais moi, il y a aussi un truc qui me gêne. Là-dedans.
Mais en fait,
l'idée, c'est quand même de permettre à des étudiants de réussir leurs études. Donc, s'ils redoublent 3 fois en 5 ans, bon.
C'est la même idée que les systèmes de protection sociale qui ont été mis en place après-guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de conditions de ressources pour bénéficier de la sécurité sociale. Et là, de la même manière, l'idée, c'est qu'on est un pays qui veut former sa jeunesse et qu'il ne faut pas être dans une situation de précarité à ce moment-là, qu'on a les moyens de faire parce qu'en fait, on n'est pas le pays le plus pauvre d'Europe et il y a d'autres pays en Europe qui arrivent, donc on n'est pas plus bête que les autres.
Enfin, on n'est pas très bien ici en ce moment. Je sais pas si tu as vu que la note de la France avait été dégradée.
Oui, mais par rapport. Alors, si vous regardez au niveau mondial, et si vous regardez au niveau mondial, il n'y a pas de difficulté pour emprunter.
On n'est pas au Bangladesh, c'est vrai.
Voilà, le Danemark, la Finlande, la Norvège le font. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Ensuite, c'est un choix politique. Est-ce que l'objectif, c'est de permettre aux étudiants de plus être, de manger à leur faim? Il y a 19% des étudiants qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui. De pouvoir se concentrer sur les études plutôt que de jongler avec les boulots. Moi, je l'ai fait, mais franchement, c'est dur.
Moi aussi, je l'ai fait, mais je pense que Thierry l'a fait.
Oui, mais c'est pas parce qu'on a fait des trucs qui étaient pénibles. Obligé de souhaiter à la génération d'après.
On peut aussi bosser. Enfin, moi, je te disais, mais 1158 euros. Enfin, moi, j'ai jamais eu ça quand j'étais. J'ai jamais eu ces sommes-là quand j'étais étudiante. Mais bon, voilà. Et je trouve que c'est quand même. Pour le coup, c'est pas mal. Mais tant mieux pour les étudiants. Mais on peut aussi faire qu'ils aient aussi le goût de l'effort et de travailler un petit peu pendant ces études. J'ai encore une
mais
fois.
Mais après, c'est un peu étonnant. Ça veut dire que les études, c'est pas un effort. Enfin, c'est quand même une vision de l'étude qui est.
Mais encore une fois, tout dépend aussi dans quelle filière tu es. Il y a des études plus ou moins sélectives, quand même. Il y a des études plus ou moins difficiles. Il y a des études qui prennent plus ou moins de temps. Enfin, si t'es en prépa d'une école de commerce, c'est sûr que tu n'as pas le temps de faire un deuxième boulot. Si t'es en sociaux, un peu plus. Voilà, si on
et
se dit les choses.
Ça ne touchera pas les étudiants, rappelons-le. Ouais. Quant au chiffrage, le chiffrage de 11 milliards, c'est celui de LFI.
Oui, c'est
celui
ça.
Des journalistes économiques, c'est plutôt 20 milliards.
Alors, on va garder celui de 20 milliards. on est avec Yannick, qui nous appelle de Perpignan. Yannick, qui est maçon et qui a 3 enfants, justement. Bonjour, Yannick.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Ils ont quel âge, vos enfants, Yannick?
Alors, j'en ai une de 17 ans, 21 ans et 25 ans.
D'accord, donc ils sont étudiants. Est-ce que vous seriez favorable?
Non, ils sont pas d'accord. Étudiants. Alors j'ai une lycéenne, un apprenti et une qui travaille tant bien que mal, qui essaye de gagner son argent, pas qui reçoive de l'argent comme ça sans rien faire, qui gagne son argent. Moi, on m'a toujours appris qu'il fallait gagner son argent, pourquoi que ce soit.
Mais je sens que vous êtes contre cette proposition, Yannick.
Ah oui. Alors là, il y a pas plus démago comme proposition que ça.
Mais ça peut être démago et bien.
Bien pour les étudiants, comme vous dites, que pour les étudiants qui font des études vraiment poussées, peut-être pas, parce que là, je me permets pas de juger, je connais pas assez. Mais pas pour tout le monde, pas pour tous les jeunes, c'est impossible pour tous les jeunes. On nous parle sans cesse qu'on n'a pas de sous, et là on va trouver 20 milliards comme ça pour les jeunes, malgré qu'ils fassent rien, on va leur trouver 20 milliards comme ça. Et les gens qui bossent, qui galèrent, non, on n'a pas de sous pour eux.
Vous paierez les impôts pour cette mesure. Après, c'est vrai qu'il y a des étudiants, effectivement, qui sont en très très grande précarité. Et ce qui fait mal au cœur, c'est quand vous avez un étudiant brillant qui est obligé d'arrêter ses études ou qui est obligé de changer de filière parce qu'il peut pas faire ses études, par exemple, à Paris, parce que s'il vient de province, il peut pas aller à Paris faire ses études parce que c'est trop cher. Là, évidemment, c'est un crève-cœur, mais normalement, il existe des bourses pour ça et pour pallier ce genre de situation. Mais merci. En tout cas, Yannick, d'avoir été avec nous, on a bien senti que vous étiez contre. On a Florian également qui est jeune, Florian, et qui nous appelle de Cambo-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantiques. Et il est community manager. Bonjour Florian.
Oui, bonjour à tous, merci de me recevoir.
Bonjour. Florian, vous avez quel âge?
J'ai 25 ans.
Alors en tant que très jeune, Florian, vous pourriez être concerné par cette mesure. Alors vous bossez, vous êtes community manager. Mais pendant que vous faisiez vos études, est-ce que vous auriez aimé recevoir ce revenu?
Alors moi, j'ai fait 5 ans d'études en restauration, bac pro, BTS et licence.
D'accord.
Et j'ai dû faire un crédit étudiant à la dernière année en master parce que j'ai craqué. Mais pour autant, je ne suis pas pour cette somme qui, pour moi, est disproportionnée. Il y a d'autres façons d'aider les jeunes, notamment des chèques alimentaires, notamment avec des associations. Mmh. Et moi, j'ai été 5 ans au CROUS. Donc, j'avais une bourse et j'étais logé par le CROUS.
Voilà. Et le CROUS, le repas est à 1 euro. Hein.
Le repas est à 1 euro. Mmh. Donc, franchement, j'étais dans la précarité un petit peu. J'avais des fois du mal à finir le mois, etc. Mais j'étais quand même logé au CROUS, j'avais l'électricité dedans, l'eau, à l'université Jean Jaurès, j'avais des repas à 1 euro du CROUS.
Ouais,
c'est vrai qu'après, pour une somme comme ça, pour moi, maintenant que je travaille, je comprends ce que c'est la vie active, pour moi, cette somme, elle est disproportionnée, c'est juste de la politique et il n'y a pas de fond.
Je suis d'accord, parce que vous êtes étudiant, vous n'avez pas les charges que peut avoir un jeune adulte.
Exactement.
Etc. Et 1158 euros net d'impôts, moi, pour un étudiant, ça me paraît beaucoup, parce que même, alors j'entends qu'à Paris, les loyers sont chers, mais je veux dire, on peut se loger pour moins que ça et manger pour 1158 euros net.
C'est un peu compliqué.
Mais parce qu'il quand faut, t'es étudiant,
bah, il faut des
tu
garants.
Tu plaisantes ou quoi?
Il faut gagner.
Non, mais ça, je suis d'accord.
Fois,
mais là,
il faut gagner trois fois le loyer. Il faut des garants.
Sur le strict point de vue financier.
Non, mais sur le strict point de vue financier, je te parle pas de difficulté pour te loger, mais sur le strict point de vue financier, 1158 euros net mensuel.
Beaucoup plus qu'à ce
pour un étudiant.
Pour un étudiant, stage, hein, de proposer 936 ouais, euros net.
Bien sûr.
Exactement. Et qui en plus peut quand même faire 2-3 babysitting de ci de là.
Enfin, pour 8 mètres carrés.
C'est bien. Comme ça permettra d'augmenter un peu le business du cannabis. Tu peux attacher 2-3 joints.
T'as 9 mètres carrés. Moi, j'ai vécu aussi dans 9 mètres carrés. Tu vois, voilà. Ça coûtait pas 1 100 euros.
1 000 euros aujourd'hui à Paris.
Mais je pense que la réalité, c'est qu'en fait,
alors à Paris intramuros, hein, non plus. Hein.
Quel que soit le montant de la location.
Non, mais du coup, ça rajoute du temps. Enfin, c'est oui. intéressant ce que tu dis, mais ça rajoute du temps de transport, du travail en plus. Aller en cours, réviser, préparer ses partiels.
Encore une fois, tout dépend de tes études. Encore une fois, il y a des filières où t'as largement le temps de taper 30 minutes de RER.
C'est une mesure qui verra jamais le jour. Elle est proposée par un parti à la dérive.
Oui, mais c'est pas le seul parti. Le revenu universel, par exemple, oui, c'était la gauche à un moment.
Ça verra jamais le jour non plus.
Parce qu'il y avait Benoît Hamon.
Tout ça, c'est du farfelu. Mais écoutons Anne-Sophie.
Non, mais c'était juste pour dire que quel que soit le montant, je pense que il y a des chances que les étudiants continuent à travailler un peu à côté, parce qu'effectivement, il y a des endroits où ça peut être difficile pour vivre. Mais c'est simplement que ce sera plus une pression aussi forte et le risque de se retrouver à la rue et pas manger pas et sauter des repas donc ça permet aussi d'alléger un peu la pression de précarité des étudiants.
Encore une fois, hein, le Crous c'est 1 euro, hein, le repas. Alors moi je veux bien tout ce
oui,
qu'on
mais
veut,
tout le monde a pas accès à ce au repas du Crous à 1
mais
euro.
Mais si t'es dans le besoin, t'as accès au repas du Crous en fait. Donc si t'as une bourse, t'as accès au repas du Crous.
Si t'en
et sinon
des repas.
Et sinon, je suis bien passé pour le savoir parce que voilà, si tu gagnes beaucoup plus que des ressources, ton repas tu le payes plus cher. C'est ce qui permet aussi de financer le Crous. C'est un peu comme les crèches, où les enfants de bourgeois, on va dire, payent plus cher la crèche que l'enfant de la personne qui est au SMIC. Et c'est totalement normal. Mais ce que je veux dire, c'est que, et j'entends que le Crous, c'est pas un resto 3 étoiles, mais pour 1 euro, tu peux manger.
Ouais, c'est pas donc, le soir. Et alors, en plus, moi, je me rappelle le midi, t'as pas le temps d'y aller tellement il y a de monde.
Mais ça, c'est autre chose, Anne-Sophie. C'est autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, t'es boursier, t'as le Crous, et c'est 1 euro par jour. Et si t'es à 1158 euros net, c'était quasiment au SMIC. C'est-à-dire que tu fais des babysitting et un petit boulot une fois par semaine, t'es à plus que le SMIC. Ben, moi, je suis désolée, mais il y a un truc qui me gêne. Pardon, hein, mais...
Voilà. Alors moi, oui. Alors déjà, non. Et par ailleurs, encore une fois, c'est un choix politique. Est-ce qu'on se dit qu'on va laisser de l'espace aux étudiants pour avoir le temps d'étudier normalement et sans pression, précarité? Et ça existe dans d'autres pays.
Tout à fait.
Et ça avait déjà été discuté par le passé.
Et plus âgés qui bossent pour une petite somme qui gagne moins que ça.
Moi, ça me gêne.
Je pense qu'il y a plein de Français qui...
Ah, mais par contre, moi, je pense qu'il faut que...
Tu vois le gars qui s'inscrit à la fac, il prend un tas de...
Je vais prendre 1150 balles, quoi.
Et il s'y met pendant 3-4 ans, et puis c'est réglé, quoi.
Non, mais c'est un... Par ailleurs, moi, je suis pour la hausse des salaires. Enfin, je suis pour la hausse des salaires. Effectivement, c'est très problématique que des gens soient quasiment au seuil de pauvreté en travaillant, enfin.
Alors, notre invité sur ce débat, et c'est très intéressant qu'il soit là, c'est Erwan Tizon, qui est économiste et qui va nous dire ce qu'il pense de cette mesure. Bonjour Erwan.
Bonjour Estelle Denis.
Et merci beaucoup d'être avec nous. C'est une bonne idée, ce revenu de 1158 euros pour les 18-25 ans?
Bah écoutez, déjà, c'est pas nouveau. Hein. La première fois qu'on l'a proposé, c'est l'UNEF dans son congrès en 1946, ce qu'on appelait la charte de Grenoble.
D'accord.
Donc, on voit que l'idée est loin d'être originale, innovante ou révolutionnaire. Ensuite, au niveau du chiffrage, on est à plus que 20 milliards. Quand on prend la population globale des étudiants, on est plutôt aux alentours de 28-29 milliards d'euros, sans les effets d'aubaine, ni les effets d'administration. Bon, vous avez vu qu'il y a quelques petits soucis de deniers publics en ce moment. 30 milliards d'euros, à peu près 1,5 de PIB, c'est quand même pas facile à trouver. Ensuite, il y a deux problèmes qui se posent derrière cette question-là. Le premier, c'est que ça s'adresse exclusivement aux étudiants. Or, tous les jeunes ne sont pas étudiants.
Ça s'adresse en fait à tous les jeunes. C'est pas que les étudiants, nous on schématise en disant étudiants, mais c'est aussi les apprentis, par exemple.
C'est des apprentis, mais c'est pas du tout ceux qui ne sont plus en études.
Or, non, tous ceux qui sont plus chez leurs parents.
Vous avez quand même une égalité forte qui se joue entre les étudiants et les jeunes, qui est quand même absente de nos débats, est que quand vous êtes étudiant, effectivement, vous êtes dans une précarité relative parce que vous n'avez pas de revenus directs, mais quand vous regardez tout au long de votre carrière, vous allez avoir un taux de chômage qui sera largement inférieur à ceux qui n'ont pas fait d'études, et vous allez avoir des revenus qui sont largement supérieurs. Donc, est-ce que c'est logique de subventionner une population qui, sur tout le long de sa carrière, sera favorisée par rapport à une population qui, elle, est structurellement défavorisée? Ça, c'est un autre problème. Et enfin, on s'attaque plutôt au mal plutôt que s'attaquer à la racine. Le vrai problème de la précarité des jeunes de manière globale, c'est le logement. Le logement pèse pour près de 40% des budgets, c'est ce qu'on appelle des dépenses contraintes, donc c'est des charges qui ne sont ni pilotables ni contractables, de la plupart des jeunes. Tant qu'on ne s'attaquera pas justement à ce mal-là, on pourra mettre toutes les allocations qu'on veut. Au contraire, on ne résoudra pas le problème, mais au contraire, en plus, on créera une bulle inflationniste sur notamment les prix des logements dans les zones tendues, qui en fait ne fera qu'augmenter leur précarité. Donc attaquons-nous plutôt aux causes structurelles qui sont à la fois le chômage des jeunes, mais qui sont non qualifiés, non diplômés, et à la fois l'accessibilité du logement, notamment dans les zones, on va dire, urbaines et périurbaines. Et là, on pourra avoir une solution qui sera à moindre frais et beaucoup, beaucoup plus efficace.
Ouais, mais alors le problème du logement, c'est qu'aujourd'hui on peut plus construire. Donc parce que il y a l'histoire de l'artificialisation des sols, il y a des communes qui veulent pas construire de logements. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, le secteur de l'immobilier neuf est totalement en berne. Donc malheureusement, il y a aussi des freins à ces nouveaux logements. Mais Erwan Tison, ce chiffre de 1158 euros, est-ce qu'il vous paraît aberrant ou est-ce que vous dites bah c'est le juste chiffre pour être bien quand on est étudiant?
Non, mais en plus, économiquement, il n'a aucun sens. Quand on est étudiant à Clermont, par exemple, dans le secteur public, c'est pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes besoins que quand on va être dans une école privée à Paris. Donc déjà, il faudra avoir une différenciation selon les bassins de vie, selon le niveau d'études, selon la longueur des études, selon le coût des études, le coût du... Enfin, donc c'est plutôt de la communication qui est faite. Effectivement, on est à quelques jours des élections.
C'est très étonnant de la part de Manon Aubry, quand même.
Qu'est-ce qu'il y a, Daniel?
Comme tous les partis politiques communiquent avant les élections, c'est assez logique, finalement.
Alors, on a un étudiant, tiens, qui est avec nous également pour réagir, c'est Yanis qui nous appelle de Plédran dans les Côtes d'Armor. Bonjour Yanis.
Oui, bonjour à tous, bonjour toute l'équipe.
Bonjour.
Donc, déjà, merci, c'est la première fois que j'ose téléphoner, depuis le temps que je vous écoute.
Ah donc, vous avez bien fait.
Voilà, j'apporte mon témoignage. Donc moi, je suis étudiant, j'ai 22 ans, je suis en alternance maintenant. Et j'ai choisi donc la voie de l'alternance parce que donc j'avais pas forcément les parents qui pouvaient financer mes études. Mmh. Et l'alternance m'apportait donc les diplômes et le fait de gagner un salaire.
D'accord.
Et en plus, ça rentrait totalement dans ce que je voulais faire dans mon cursus en tant que commercial. Donc, ce que je fais aujourd'hui, donc pour répondre à la question des 1100 euros à l'étudiant, il faudrait peut-être plus réorienter donc les étudiants vers des voies professionnelles, comme disait Daniel juste avant. Hein, donc, peut-être une meilleure sélection à l'entrée des facs. Et aux personnes qui donc sont sélectionnées dans les facs, ce qui permettrait de réduire le nombre, leur donner les 1000 euros et peut-être adapter plutôt les dépenses, hein, d'avoir des justificatifs peut-être de dépenses, de loyer, de nourriture pour tout pas que ça passe en boisson et en soirée. Comme moi le premier, si j'ai les 1000 euros, je sortirai et je ferai des conneries avec.
Ah, évidemment.
Bah, évidemment, mais merci d'être franc, Yanis. Voilà, ça fait plaisir et vous avez raison sur l'alternance. Et c'est vrai que c'est une piste formidable pour les étudiants. Parce que tu bosses et
tu fais tes études. Un gros mot. Estelle, oui. La sélection est un gros mot, la sélection à l'entrée de l'université, vous savez bien.
D'accord. Yanis, vous gagnez combien en étant en alternance?
Bah en fait, l'avantage, c'est que donc moi, j'ai fait, donc là, je suis à ma troisième année d'alternance.
Ouais.
Je gagne 1300 en tant que, donc j'ai 22 ans, je gagne 1300 euros. Et c'est j'ai bien. La chance d'être donc dans le secteur commercial du bâtiment, j'ai des petites commissions, donc c'est ce qui permet. Voilà, d'arrondir les fins de mois, on peut dire ça. Donc,
voilà, et
je suis pas à plaindre comme étudiant.
Ben non, mais c'est top votre témoignage parce que j'espère que ça pourra pousser des jeunes à aller vers l'alternance parce que c'est quelque chose d'absolument formidable et qui est méconnu en France et c'est bien dommage parce que ça fait à la fois des étudiants avec une tête bien pleine et en même temps qui savent bosser. Oui, très rapide.
Je voulais juste dire un truc très rapide sur le coût de la mesure, 28 milliards. Enfin, comme toutes les politiques sociales aujourd'hui, à chaque fois on le présente comme un obstacle infranchissable. Or aujourd'hui, on donne plus de 160 milliards d'aides aux entreprises, quelles que ce soit des PME ou des grandes multinationales. Sans vérifier s'ils ont licencié ou pas, quel est leur impact environnemental, peut-être qu'on pourrait regarder s'il y a des économies à faire et rediriger l'argent vers d'autres types de politiques.
Oui, mais c'est peut-être que ce n'est pas une priorité et qu'ils voudraient mieux mettre ces 28 milliards dans les hôpitaux. Enfin, par exemple.
Après, voilà, il y a des choix politiques à faire, mais on ne peut pas se bloquer sur la question des ressources parce qu'il y a plein de choses à examiner de ce côté-là aussi.
Et il y a aussi des bourses, encore une fois, qui fonctionnent quand même plutôt bien. C'est vrai que si on les enlevait, ça ferait aussi de l'argent pour.
Oui, mais c'est pour réouvrir le débat économique. C'est un peu dommage d'enlever aux plus pauvres. Il y a différentes options à examiner. C'est des choix de politique. Politique publique. Oui. Voilà, et à un moment, si on donne des aides sans contrepartie d'un côté, effectivement, on a moins d'argent après.
Oui, mais enlever aux plus pauvres pour donner aux autres, moi j'ai
je propose d'enlever à des grandes multinationales, donc a priori ça devrait aller.
Je me disais bien qu'il y avait un écueil. Merci beaucoup Erwan Tison d'avoir été avec nous. Alors on va voir tout simplement si cette idée vous séduit ou pas, ce revenu de 1158 euros pour les moins de 25 ans.
Oui, on vous a posé la question, est-ce que cette allocation de 1158 euros par mois pour les moins de 25 ans est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, c'est une mauvaise idée pour 85% d'entre vous.
Ah oui, donc c'est quand même. Ah oui, là, je pensais que ce serait pas.
Il y a pas de marge d'erreur.
Un chiffre pareil. Donc...